Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, le forum provincial sur la problématique des ADEF appartient désormais au passé. Il s'est clôturé hier mercredi à Beni. Les recommandations de ces assises dans ce journal. Dans ce journal aussi, ces faits incroyables qui n'arrivent pas tous les jours. Un homme d'une trentaine d'années a tué sa mère, conservé son corps dans un congélateur, puis en mangé une partie ici même à Kinshasa. Confirmation dans un instant avec le bourgmestre de la commune de Kinsenso où les faits viennent de se dérouler. L'invité de ce journal, c'est Manon Taingi, directeur technique de Solutions Durables Congo ASBL. Dans le cadre du programme Chabodou, l'ASBL Solutions Durables Congo se lance dans la lutte contre la déforestation au Maniema en fabriquant des foyers améliorés dénommés Salamakala. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Clôturé hier à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, le forum provincial sur la problématique des ADEF a abouti à une série d'engagements forts. Les participants ont salué les efforts déjà fournis par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO et la coopération de l'armée ougandaise UPDF dans la lutte contre les ADEF, tout en appelant à des actions conjointes renforcées pour neutraliser définitivement cette menace terroriste. Les recommandations s'adresse au gouvernement congolais, à la MONUSCO, à l'Ouganda ainsi qu'à la communauté internationale. Les grandes lignes du communiqué final sont présentées dans ces papiers de Martial Papimukeba rendus par Marc Marofimbo.
Les participants ont salué les efforts des FARDC avec l'appui de la MONUSCO et de l'armée ougandaise UPDF. Ils ont souligné l'importance du partage à temps réel des informations par la population, appelant également à cesser toute attaque contre la MONUSCO et à renforcer la confiance entre acteurs étatiques et non étatiques. Les leaders communautaires doivent collaborer avec les FARDC, ne pas soutenir les ADEF, lutter contre la désinformation, promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux et appuyer les opérations conjointes. Au niveau provincial, le forum recommande un plan de lutte contre les ADEF, la création d'une task force antiterroriste et d'une cellule de lutte contre la désinformation, ainsi que l'organisation d'audiences pour les enfants ex-otages afin d'éviter leur apatridie. Les FARDC sont invités à exploiter les dénonciations en protégeant les sources, à poursuivre la traque avec leurs partenaires et à communiquer après chaque opération. La MONUSCO doit renforcer la sensibilisation autour de son mandat, appliquer la résolution 2808 et soutenir les initiatives locales contre l'extrémisme violent. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et en rapport avec le forum provincial consacré à la problématique des ADEF, qui s'est clôturé hier à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, plusieurs participants parlent d'un nouveau départ dans la lutte contre ce groupe armé affilié à l'État islamique. Nombreux estiment que ces assises ont permis aux différentes parties prenantes de parvenir à une compréhension commune de la problématique des ADEF, responsables des tueries des civils au Nord Kivu et à Ituri depuis plus d'une décennie, ouvrant ainsi la voie à une riposte plus efficace. Les détails avec Martial Papimukeba.
Thomas Dakemuti, acteur de la société civile et ancien président de cette structure au Nord Kivu, estime que cette compréhension partagée du phénomène ADF favorisera la conjugaison des efforts dans la lutte contre ces groupes armés.
Aujourd'hui, tout le monde est conscient que les ADF existe et que c'est un mouvement terroriste avec l'appui de l'État islamique, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est que on a réuni tout le monde et tout le monde vient de comprendre qu'il faut se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau.
Même son des cloches du côté du vice-président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Carly Nzanzoukasivita estime toutefois que la lutte contre les ADF doit être érigée en priorité nationale.
Tout le monde a compris que l'ADF c'est un danger pour la République. Avec la compréhension que nous avons nous tous sur la thématique ADF, nous nous rapprochons pour que demain les terroristes ADF soient vaincus sur notre espace. que la question de l'ADF soit aussi considérée comme toutes les priorités nationales. Nous avons la guerre de l'agression, mais aussi nous avons les ADF qui nous tuent chaque jour.
Place maintenant aux actions concrètes dans la lutte contre les ADF. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, 6 personnes ont été kidnappées par des rebelles des ADF à Sessa, localité située à 18 km de Komanda, dans le territoire d'Irumu. C'est après une incursion de ces hommes armés dans la nuit de mardi à mercredi, indiquent les sources locales. Jusqu'à ce mercredi matin, les familles étaient sans nouvelles de leurs proches, précise un activiste des droits de l'homme contacté par Radio Okapi. Selon ce dernier, les rebelles ont d'abord attaqué une position de FARDC avant de se lancer à la poursuite des habitants de la localité. Les forces coalisées FARDC armées ougandaises ont également lancé une opération de riposte contre les assaillants dont le bilan n'est pas encore disponible. Certains habitants qui s'étaient retranchés dans la forêt pour se mettre à l'abri ont regagné progressivement leur maison au cours de la journée. Au Nord Kivu, pendant ces temps, les affrontements entre la rébellion AFC M23 et les combattants Wazalendo alliés au FARDC se sont poursuivis ce jeudi dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Selon les sources locales, les combattants se concentrent autour des villages Kalovu, Machaki et Luke. On parle d'au moins 4 civils tués et d'un déplacement massif des habitants. Les détails avec vous, Kanish Mukongo Fanikizi.
De nombreuses sources décrivent une situation confuse dans les territoires des Masisi, alors que les coalitions Wazalendo qui appuyaient l'armée congolaise venaient de reprendre plusieurs villages. Une contre-offensive de l'AFC M23 est signalée depuis 2 jours pour repousser ses avancées. Mercredi, les rebelles auraient repris Kaniro ainsi que Kasseni et Katobotobo dans le groupement des Kibabi premiers. Ce jeudi matin, les combats se sont intensifiés à Kotoyu, à seulement 6 km du chef-lieu du secteur de Katoyi, reconquis la semaine dernière par les Wazalendo du groupe Pareco. D'autres affrontements sont signalés dans le village des Machaki, près des Kazinga, groupement des Yamaboko premier ainsi qu'à Kibande et Luke le long de l'axe Mahanga. Cette recrudescence d'hostilité accentue les inquiétudes au sein des populations locales. Selon nos sources, les habitants de Mahanga qui fuyaient les combats mercredi seraient tombés dans une embuscade à Kasonja. Au moins 80 vaches ont été emportées et 3 bergers tués. En représailles, les éléments de l'AFC M23 auraient abattu un jeune du milieu et enlevé un autre, ajoute le même source.
Un acte d'une extrême violence s'est produit dans la commune de Kisenso à Kinshasa. Un homme d'une 30aine d'années a tué sa mère dans des circonstances particulièrement brutales avant d'en consommer une partie. Les faits remontent d'il y a 4 jours. Selon le bourgmestre de la commune Godé Achuel, une partie du corps de la victime a été retrouvée hier mercredi, conservée dans un congélateur lors de l'intervention des services de sécurité. Le suspect a été immédiatement interpellé. Il est actuellement détenu dans un cachot de la police nationale congolaise. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les motivations exactes de cet acte et d'établir les circonstances complètes du drame. On écoute à présent le bourgmestre de Kinshasa Godé Achuel qui revient sur les faits au micro de Nancy Atambo.
Le jeune homme dit que il avait vendu sa parcelle, il a été refoulé de l'Europe. Il fait savoir que il avait vendu sa parcelle, il a donné l'argent à sa mère et chaque fois qu'il demande l'argent, maman ne donne pas. Conséquence, il a tué sa mère. Après l'avoir tué, il a dépiécé en morceaux. Une bonne partie de la chair a été grillée. Et comme il y avait beaucoup de chair, une partie l'a mis dans le congélateur. Il a commencé lui-même à consommer. Comme il y avait assez de chair, il n'y avait pas de courant, il y a eu la pourriture. Et c'est quand les voisins ont senti cette odeur, on nous a appelés. Nous sommes arrivés, on a cassé la porte. C'est alors qu'on voit le tuyau à l'intérieur et la tête, pratiquement le tronc dans le congélateur. Et lui-même s'était caché en bas avec une machette qu'on a eu. Il est maintenant au cachot. Ça, c'est un drame. Le drame n'est pas encouragé. Voilà pourquoi tout ce jour organisé, l'audience forelle, comme s'il soit connu.
Dans la province du Kasaï central, un hippopotame a tué hier mercredi une fillette de 11 ans dans le village de Mwenyambulu, dans le secteur de Lueta, territoire de Luisa. Ce nouveau drame survint un mois seulement après la mort d'une femme dans des circonstances similaires dans ce même village. Selon plusieurs sources locales, des hippopotames quittent régulièrement la rivière Kasaï pour s'aventurier dans la communauté, provoquant peur et désolation parmi les habitants. Ceux-ci appellent les autorités à intervenir rapidement pour mettre fin à cette situation dangereuse. Reportage signé André Katendenga Lamouloumé.
Le drame s'est produit très tôt mercredi matin. La fillette était sortie à l'extérieur lorsque l'animal est soudainement apparu et l'a attaqué. Léon Mounanamouyumba, infirmier au village de Mwenyambulu, revient sur le fait.
L'hippopotame a mangé une jeune fille à la maison. L'enfant est sorti pour se soulager. Lorsqu'elle se soulageait, elle était distraite. L'hippopotame est venu vite. Comme elle était en distraction, l'hippopotame a récupéré. Il a mangé la tête, les bras, l'a coupé d'autres parties. Il a laissé et l'hippopotame est parti.
Il y a un mois, la nouvelle société civile du peuple du territoire de Luisa avait déjà alerté sur la présence des trois hippopotames dans la zone. Depuis, la population vit dans la crainte permanente. Les habitants demandent aux services de l'État chargés de la gestion et de la protection de la faune sauvage d'agir de toute urgence afin d'éviter de nouveaux drames. Kananga, André Katindenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Province du Haut-Katanga, fin ce mardi du partenariat entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et l'association Les Amis du Zoo de Lubumbashi Azlou pour la gestion du zoo de Lubumbashi. D'après certaines sources, ce partenariat prend fin dans un climat de tension entre les deux parties après 15 ans de collaboration. Paulin Mounanga revient sur ce partenariat et sur l'importance du jardin zoologique de Lubumbashi, qui est l'un des rares en RDC.
Le partenariat a été signé le 24 février 2011 entre l'ICCN et la Zulu. Dans ce partenariat, la Zulu couvrait notamment toutes les dépenses liées à l'entretien du zoo, les soins des animaux ainsi que l'alimentation des carnivores. Ce partenariat arrive à terme et dans son rapport, l'ICCN juge non satisfaisante cette collaboration. Il dénonce un manque de transparence dans la planification et l'exécution des activités, rapporte certaines sources. La fin de ce partenariat pourrait mettre en difficulté les zoos de Lubumbashi pour sa gestion, estime une certaine opinion. Docteur Jean-Claude Binemo, médecin vétérinaire du zoo de Lubumbashi, revient sur l'importance de ces jardins zoologiques.
Les zoos de Lubumbashi permettent aux élèves de venir voir ou renforcer la capacité de ceux qu'ils étudient. S'ils étudient en zoologie, ils voient par exemple les parties de l'éléphant, les lions, mais ils viennent maintenant au zoo pour visualiser ce qu'ils ont étudié. Les zoos de Lubumbashi aident aussi plusieurs chercheurs comme des étudiants. Il y a aussi, sur le plan protection, on aide aussi à sensibiliser, à montrer aux gens que non, il faut respecter la faune et la flore et de leur mettre l'idée de la protection de la nature et du respect de l'environnement.
Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Dans le territoire de Luozi, au Congo central, la maladie suspectée d'être une méningite bactérienne continue de se propager dans la zone de santé de Mangembo. Selon le bulletin épidémiologique publié hier par la Division provinciale de la santé, 24 cas ont été notifiés depuis le début de l'épidémie et 6 villages sont désormais touchés. Nana Plurich Mambo nous en dit plus.
Dans ces documents, les autorités sanitaires précisent que les activités de riposte sont en cours. Elles annoncent notamment la mise en place de l'équipe provinciale de gestion de l'incident et l'élaboration du plan de préparation et de réponse à l'épidémie. Cette semaine, 2 nouveaux cas ont été enregistrés sans décès, ce qui porte à 24 le nombre total de personnes touchées dans l'aire de santé de Bienga dans le secteur de la Kingi. Parmi ces 24 cas, 15 hommes et 9 femmes, 9 décès ont été rapportés depuis le 31 janvier. Les villages touchés sont Kinkanga, Lundu, Madimba, Kinkombo, Yambi et Kinkondibila. 13 échantillons ont été prélevés sur des cas suspects et envoyés à l'INRB. Le taux de positivité est de 42%. D'autres échantillons prélevés depuis les centres de traitement des méningites de Bienga viennent également d'être acheminés. La maladie se manifeste par de fortes céphalées, suivies parfois des pertes de connaissances et peut évoluer rapidement vers les décès. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Togo, des peines de 3 à 50 ans ont été requises mercredi 25 février par le procureur général de la Cour d'appel militaire contre 7 personnes inculpées dans l'affaire de la mort du colonel Bitala Majuluba. Ce haut gradé qui dirigeait le premier bataillon d'intervention rapide a été tué par balle dans son bureau du camp militaire de Lomé quelques heures après la cérémonie d'investiture de Fort Niasingwe en mai 2020. L'État togolais a fait appel après un premier verdict jugé trop clément, alors que les avocats de la défense dénonçaient, quant à eux, des vices de procédure et un manque de preuves lors du premier procès.
L'invité.
Notre invité, c'est Manon Taingi, directeur technique de solutions durables Congo ASBL. Dans le cadre du programme Chabodou, l'ASBL Solutions durables Congo se lance dans la lutte contre la déforestation au Maniema en fabriquant des foyers améliorés dénommés Salamakala. La première phase a permis de distribuer 2000 foyers améliorés aux ménages des 10 villages des territoires de Kailo, Pangi, Kibombo et Kasongo. Pour mieux comprendre ce projet financé par la GIZ, Florence Kizalunga reçoit pour nous Manon Ntaïgi.
Monsieur Manon Ntaïgi, bonjour.
Bonjour madame.
Solution durable Congo, aujourd'hui vous lancez la distribution des foyers améliorés dans la province du Maniema.
Merci beaucoup, nous sommes une structure locale qui comprend les besoins de la communauté locale. Comme vous savez, la plupart de nos communautés vivent en milieu rural et dans les villages. Le seul moyen de cuisson pour eux, c'est les foyers à trois pieds. Nous avons amené une solution fabriquée localement, assemblée ici à Kindu, pour pouvoir résoudre ces problèmes, réduire la consommation du bois, donc la déforestation et la consommation du bois, en même temps en assurant une combustion propre et vraiment efficace avec un foyer adapté.
Alors, votre projet vise combien de ménages pour distribuer ces foyers améliorés?
Nous ciblons dans un premier temps 2000 ménages. C'est la limitation que nous avons avec le financement de notre partenaire, la GIZ. Nous espérons que dans les jours à venir, ce nombre peut être augmenté et que nous pouvons trouver des solutions complémentaires à cet appui pour pouvoir amener davantage de foyers au Maniema. Nous pensons notamment à la mise en place d'un projet de financement à crédit du carbone avec un suivi des foyers qui sont déjà dans la région pour voir comment progressivement ajouter ne serait-ce que des foyers additionnels pour des ménages qui n'ont pas eu la chance d'en bénéficier.
Kindu n'est pas Maniema. Maniema a 7 territoires. Vous œuvrez dans combien de territoires?
Cette préoccupation a été exprimée par le gouvernement provincial. Nous allons discuter encore avec notre partenaire, la GIZ, pour voir dans quelle mesure, dans le cadre des projets charbon du bois durable, s'il peut y avoir des extensions et permettre aussi l'ajout des foyers à distribuer. Sinon, non, nous ne croisons pas les bras. Nous proposons à notre partenaire et au gouvernement local de considérer aussi la possibilité d'amener des travaux dans le sens de la production de crédit carbone ici, en réduisant la pollution pour pouvoir générer des ressources qui peuvent nous permettre d'ajouter des foyers dans les communautés locales.
Les foyers améliorés sont beaucoup plus fabriqués de différents modèles dans la ville de Kindu, tout comme dans la province d'Imanima. Quelle est l'innovation que vous amenez, vous apportez dans votre foyer amélioré?
Comme je disais, notre foyer corrige les pratiques traditionnelles en rendant la cuisine traditionnelle dans les villages modernes avec un foyer qui est gazéificateur qui utilise en fait les gaz qui contiennent dans le bois pour pouvoir faire la cuisson. Et quand vous observez ces foyers là, ils se comportent pratiquement comme un réchaud à gaz. Donc l'effet est bruyant et la combustion est très efficace et très courte. Et même la qualité des aliments préparés est supérieure à ceux qui sont cuisinés normalement avec les bois ou avec le charbon. Donc c'est une solution qui répond vraiment à des pratiques culturelles qui attache encore nos communautés au bois par rapport à sa facilité et sa non-transformation avant l'utilisation comme combustible des cuissons.
Vous luttez contre la déforestation, mais vous apportez une solution, un foyer amélioré qui utilise encore des bois. Comment expliquer?
Oui, nous utilisons le bois, mais le foyer ici a l'avantage de pouvoir consommer moins de bois. Et non seulement la consommation de bois est réduite à l'excès, je peux le dire, mais il permet de récupérer 30% de ces bois-là sous forme de charbon du bois qui peut être récupéré et utilisé pour d'autres besoins domestiques ou mis sur le marché pour permettre de donner des ressources aux ménagères.
Après la distribution de ces 2000 foyers, qu'est-ce qui suivra dans votre projet?
Nous prévoyons déjà dès la semaine prochaine entamer avec les transports de foyers améliorés vers les villages où ils seront distribués et aussi en même temps lancer le programme de plantation des arbres pour les différents pépinières que nous avons installés dans ces villages. Donc il faut souligner ici que chacun des villages a déjà une pépinière dernière avec beaucoup d'arbres plantés. Et nous pensons que d'ici la fin de la saison culturelle, nous aurons planté un minimum de 30 000 hectares.
Vous avez accompagné la communauté pour la fabrication de ces foyers améliorés. Et quel est votre accompagnement qui suivra après?
Nous les accompagnons aussi dans le développement des activités génératrices de recettes. Pour votre rappel, les prix, les foyers vendus à 15 000 francs et les produits de ces ventes-là restent au niveau de la communauté. Une partie des fonds va servir à payer les frais de transport, mais aussi à pouvoir mettre à côté des fonds pour investissement sur des activités de développement qui vont continuer à générer des recettes et appuyer l'économie locale de ces villages-là. Donc, par village, comme nous avons planifié une moyenne de 200 foyers, donc vous avez pratiquement 3 millions de francs congolais qui vont générer.
Votre vision, c'est pour atteindre quoi?
Notre vision, c'est avoir l'environnement de la RDC protégé, notamment les écosystèmes forestiers où la pression est énorme.
Manon Taingi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était notre invité Manon Taingi qui s'entretenait avec Florence Kizalunga et c'est ce qui met fin à notre journal de la mi-journée coordonné par Élisée Tshikota-Tshivueta et supervisé par Lévin Mbouinga et mise en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.